Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est le président du gouvernement, Alcide Ponga. Bonjour.
Bonjour Elisabeth, bonjour aux auditrices et aux auditeurs.
Et merci d'avoir accepté notre invitation alors que vous allez quitter vos fonctions à la tête du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et que déjà c'est l'heure du bilan. Alors vous êtes président du 18e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie depuis le 16 janvier 2025. Vous avez été élu, on le rappelle, dans une période particulièrement délicate, difficile, après la chute du gouvernement de Louis Mapou et 8 mois seulement après les émeutes de mai 2024. Dans votre discours de politique générale, vous avez d'ailleurs déclaré « Jamais nous n'avons connu une crise aussi grave, ni un avenir aussi incertain ». Alors à l'époque, l'économie calédonienne était effondrée, le secteur du nickel était dans une très grave crise, les recettes fiscales avaient connu une baisse dramatique et il y avait la nécessité à la fois de faire fonctionner le territoire et de poursuivre les discussions institutionnelles. Alors 18 mois après Alcide Ponga, est-ce que la Calédonie va mieux ?
Écoutez, merci Elisabeth, hein, vous avez dressé un portrait fidèle et c'est le portrait de la situation dans laquelle on est arrivé avec mes collègues du 18e gouvernement à la prise de fonction en janvier 2025. Je vais retenir un chiffre. Quand on est arrivé et quand il a fallu établir le budget 2025 de la Nouvelle-Calédonie, on constatait 54 milliards de recettes en moins. Voilà, c'est un chiffre qui est parlant, c'est un chiffre qui caractérise la difficulté dans laquelle le 18e gouvernement a pris ses fonctions. Alors vous me posez la question 18 mois après. Écoutez, j'espère que ça va mieux que l'époque. Voilà, j'espère que ça va mieux que l'époque, mais je dois avouer que la situation est toujours compliquée. Elle est toujours tendue sur le point de la situation financière et budgétaire de la Nouvelle-Calédonie. Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire, mais je peux dire qu'on a essayé, avec mes collègues du 18e gouvernement, de limiter la casse. On a pris des décisions parce qu'il fallait prendre ces décisions-là durant notre mandature où ça a fait couler beaucoup d'encre, ça a fait parler beaucoup de gens, mais ce sont des décisions qu'il fallait prendre dans le contexte dans lequel on était pour pouvoir repositionner la Calédonie dans une trajectoire, je l'espère, qui l'amènera à aller vers de meilleurs auspices dans un avenir pas trop lointain.
On va voir tout ce que vous avez fait pendant ces 18 mois, mais déjà un petit rappel, le 18e gouvernement avait une durée de vie annoncée de 9 mois seulement. À l'époque, les élections provinciales devaient avoir lieu en décembre 2025. Vous avez eu un sursis finalement, vous avez tenu plus longtemps, 18 mois, le double. Ça a été un avantage ou un handicap ? Est-ce que vous aviez prévu des choses sur 9 mois en vous disant « bon, c'est court, on va faire les choses rapidement » ou est-ce que ça a été une surprise de devoir durer aussi longtemps finalement ?
Écoutez, durant notre mandature, c'est vrai qu'on était parti pour 9 mois. Avant de parler de 18 mois, on a parlé de peut-être 2 ans, parce que au sortir de Paris en janvier 2025, on parlait plutôt de décembre 2026. Les choses ont fait qu'on a eu 18 mois. Comment est-ce que je vais dire ? Je pense pas qu'on avait le temps de penser si on avait 9 mois ou 18 mois ou 2 ans. Il y avait des dossiers qui étaient en face de nous, il y avait des décisions à prendre et il fallait faire rapidement les choses, il fallait faire bien les choses et surtout il fallait le faire dans l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie et des Calédoniens.
Alors l'un des critères sur lesquels on juge toujours un gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, c'est le respect ou non de la collégialité. Sur ce plan, c'est un thème qui est pas trop venu dans les débats depuis ces 18 mois. Comment ça s'est passé ? Quelle était l'ambiance au sein du 18e gouvernement ? Est-ce que vous avez pu travailler sereinement avec vos 10 autres collègues ou est-ce qu'il y a eu des moments de tension ?
Merci Elisabeth de me poser cette question et je vais profiter de l'antenne pour remercier l'ensemble de mes collègues parce que je dois vous dire que 95 à 98% des décisions qui ont été prises au sein du gouvernement l'ont été prises avec tous les votes des membres. Et je prendrai comme exemple le projet de loi sur les exportations sur les réserves métallurgiques concernant le nickel. Tout le monde a voté ce texte au sein du 18e gouvernement. Il y a eu des décisions à 6 contre 5, mais c'était plutôt sur des questions d'organisation au début, de la nomination de président, de la répartition de secteurs. Donc c'était plutôt des questions politiques et c'était plutôt des positionnements politiques. Et d'ailleurs, je le redis, hein, je remercie l'ensemble de mes collègues parce qu'on a su, je pense, durant tout notre mandature, aussi courte soit-elle mais intense, on a su se retrouver sur l'essentiel et avancer ensemble.
La question de la vice-présidence, il n'y a pas eu de problème, vous avez pu vous en passer ?
Oui, mais c'était essentiellement lié également à tout ce qui s'est passé en 2024 et lié à la reprise ou non des discussions que nous avons eues, notamment sur Bougival, ensuite Oudinot, Élysée. J'ai pas eu de vice-présidence, mais je vous avoue que je n'y ai même pas pensé durant la mandature, j'avais pas le temps d'y penser.
Alors dans le document qui présente votre bilan, que vous avez publié ce matin en le présentant face à la presse, vous citez en premier la réouverture de la Nouvelle-Calédonie sur son environnement régional. Ça surprend un peu, alors deux questions, comment s'est traduite cette réouverture ? Et puis ensuite, est-ce que c'est vraiment essentiel dans la période que traverse la Nouvelle-Calédonie de se tourner d'abord vers l'extérieur ?
Vous savez, Elisabeth, je pense, et je le partage souvent avec mes équipes, je pense que trop souvent en Nouvelle-Calédonie, on est trop nombriliste. Et on pense qu'on est le centre du monde, on pense qu'on a tout le mal sur le dos. Je ne nie pas les difficultés que les Calédoniens rencontrent, mais je l'ai mis, ce sujet-là, dans mon bilan, parce que j'ose espérer que la Calédonie puisse aussi penser à l'extérieur, au-delà de sa barrière de corail. La Nouvelle-Calédonie, elle a un rôle à jouer dans le Pacifique. La Nouvelle-Calédonie a un rôle à jouer avec l'Europe en matière énergétique, en matière de nickel. Si on reste trop enfermé sur nos questions politiques, sur nos petites problématiques internes, j'ai bien peur qu'on puisse passer à côté de beaucoup de choses. Alors, et la traduction de
voilà,
cette...
Vous avez fait beaucoup de déplacements. Hein,
je veux dire... Le premier déplacement, et je vais remercier Louis Mapou à l'antenne, parce que c'est lui qui m'a parlé au début de cette importance de faire rayonner la Calédonie dans le Pacifique, parce que lorsque je suis allé au Forum des îles du Pacifique, j'ai compris le rôle que pouvait jouer la Nouvelle-Calédonie dans l'ensemble du Pacifique. Et quand je parle de la Nouvelle-Calédonie, je ne parle pas que du politique. Je me suis déplacé en Papouasie-Nouvelle-Guinée, accompagné de la CCI et des entreprises calédoniennes. Quand j'ai été à Tahiti, je me suis rendu compte, et les entreprises calédoniennes m'ont accompagné, qu'ils sont présents à Tahiti, qu'ils sont présents au Vanuatu, qu'ils sont présents à Fidji. Et c'est en ça que je souhaite que la Calédonie, que le politique, que le gouvernement calédonien puisse développer ses relations régionales pour donner un rôle et pour asseoir le rôle de la Nouvelle-Calédonie au sein de la famille du Pacifique. Vous savez, je vais finir, Elisabeth, en disant rien que toute l'arc mélanésienne du Pacifique, je ne parle pas de l'arc polynésienne avec nos amis wallisiens, tahitiens, et encore moins de l'arc micronésien, mais rien que l'arc mélanésien, c'est entre 20 et 20 millions de personnes, 20 et 20 millions de consommateurs, 20 et 20 millions qui constituent un marché sur lequel on peut travailler ensemble. Avec le Vanuatu, avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec l'ensemble de ces îles sœurs du Pacifique. Et pour ma part, je crois que c'est Philippe Germain à l'époque qui a commencé à porter la Nouvelle-Calédonie à l'extérieur, je pense qu'il faut continuer. On ne doit pas s'enfermer sur nos propres questions. Oui, elles sont là, on les réglera, on les traitera, mais on doit porter la Calédonie au-delà de la barrière du corail.
Et quelle est l'image que la Nouvelle-Calédonie, justement, dans ces pays-là, dans la région, et même au-delà, puisque vous avez également eu l'occasion d'aller à l'ONU, vous avez eu l'occasion d'aller dans plusieurs pays européens également, et dans les Caraïbes, je crois. Quelle est l'image de la Calédonie ? Est-ce qu'elle est marquée par ce côté politique, par les violences qu'elle a connues ? Ou est-ce que les gens ont plutôt une bonne image de nous ?
Je vais vous avouer, Elisabeth, que j'étais très 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 sceptique à l'époque où on me dit d'aller au Forum des îles, d'aller à l'ONU, d'aller représenter la Calédonie, parce que nous avions cette image qui tournait autour de la question politique. Et aussi parce que les anciens membres du FLNKS avaient fait un travail dans le Pacifique et à l'ONU pour positionner l'image politique du FLNKS. Je pense que durant la mandature du 18e gouvernement, nous avons cassé cette image en disant que la Nouvelle-Calédonie a son rôle à jouer en tant que territoire, mais non pas en tant que telle branche politique ou telle branche politique, et que la Nouvelle-Calédonie a son rôle à jouer en tant que territoire au sein de la famille pacifique, au sein de l'ONU, de se positionner. Moi-même, dans mes discours à l'ONU, je n'ai jamais parlé de branche politique qui tendait vers la droite. Non, j'ai positionné la Nouvelle-Calédonie en tant que territoire qui a besoin de se construire, qui avait besoin de paix et qui avait besoin qu'on se parle pour avancer. Et je pense que c'est un rôle important que le gouvernement doit porter. Ce n'est pas à un groupe politique de porter l'image de la Nouvelle-Calédonie à l'extérieur.
Alors, le deuxième axe mis en avant dans votre bilan, et là, c'est normal, c'est la filière nickel. Alors, c'est un secteur essentiel, c'est un secteur que vous connaissez très bien professionnellement. On en est où ? Est-ce qu'on a avancé d'une part sur la relance de la filière et d'autre part sur la définition d'une stratégie nickel en Nouvelle-Calédonie ?
D'abord, Elisabeth, ce que je souhaiterais dire, c'est que chaque jour qui avance nous rapproche de l'objectif. Quand je dis ça, je ne prends pas beaucoup de risques, je vous le concède, Elisabeth. Mais pendant notre mandature, nous avons travaillé à essayer de renouer le dialogue entre les acteurs du nickel. Et vous savez que les compétences sont réparties entre le gouvernement qui doit travailler sur la législation, sur la réglementation autour du nickel, mais vous avez les provinces qui ont un rôle fort concernant les entreprises, parce que les provinces sont partie prenante des actionnariats des entreprises de la place. Et donc, je me suis, attaché à essayer de renouer le dialogue entre le gouvernement, la province sud, la province nord, mais également la province île, en activant ce qu'on appelle la conférence nickel, conférence des présidents autour du nickel. Et donc, on a fait ces réunions-là pour travailler, et notamment, on a invité l'État, la MINC. Vous savez que la compétence du nickel, c'est une compétence locale, mais nous avons travaillé également avec la MINC qui nous a accompagnés pour nous éclairer.
La mission interministérielle pour la Nouvelle-Calédonie.
Voilà, tout à fait, la mission interministérielle. Et donc, ce que je peux dire, c'est que on reparle entre nous. La question nickel est une question éminemment politique. Et il est vrai qu'on parle de stratégie, on parle de doctrine, ça met de l'attention dans la discussion nickel, mais vous savez, la question nickel, c'est d'abord une question économique, c'est une question technique, et c'est une question d'emploi, c'est une question qui concerne la vie de tous les jours des Calédoniens, que ça soit dans le nord, que ça soit dans le sud, que ça soit sur la côte ouest, sur la côte est. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire dans cette reprise de dialogue, pour essayer de s'écouter. C'est pas d'être forcément d'accord sur les différentes stratégies qu'il y aurait à mettre en place. Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que la principale stratégie qu'on devrait avoir sur le nickel en Nouvelle-Calédonie, c'est celle où le nickel rapporte plus d'abord aux Calédoniens et ensuite aux institutions calédoniennes. Et donc, on se doit de créer les conditions, c'est le boulot de notre stratégie, c'est qu'on se doit de créer les conditions pour que l'ensemble des opérations, du business qu'il peut y avoir autour du nickel ici en Nouvelle-Calédonie, fonctionne de façon correcte. Et en pouvant répondre aux défis du marché international, mais avec comme objectif à la fin de rapporter aux Calédoniens et de rapporter à la Nouvelle-Calédonie.
Mais il y a des points de blocage, il y a des points durs. Par exemple, vous parliez tout à l'heure du texte sur l'exportation de nickel. On sait que ça ne fait pas l'unanimité, notamment que le président de la province nord y est toujours opposé. Est-ce que vous pensez qu'on va arriver à dépasser ces oppositions et à trouver vraiment une manière de développer le nickel qui fasse un peu l'unanimité en Calédonie ?
Mais vous savez, Elisabeth, comme je l'ai dit, je pense que stratégiquement, on est tous d'accord de ce qu'on veut faire avec le nickel en Nouvelle-Calédonie. On veut pouvoir l'exploiter au mieux pour que ça profite au mieux aux Calédoniens. Et donc, là où on est opposé, et je trouve dommage que souvent on mette des modèles en opposition, parce qu'il est là l'opposition, c'est l'opposition de modèle. Est-ce qu'on fond notre nickel localement et en le vend, quitte à créer de la valeur ajoutée ici ? Mais la question, elle n'est pas là. Est-ce qu'on est capable de produire du nickel pas cher, compétitif sur le marché, pour pouvoir le vendre. Parce que si on produit un nickel qui coûte trop cher et qu'on n'est pas capable de le vendre sur le marché, ben vous savez pas quoi, ça sert à rien de produire. Voilà. Et donc, pour moi, je pense que tous les modèles sont complémentaires. Celui de la production locale, celui de l'exportation, celui de l'offshore, celui de... Il y a plusieurs modèles. Il y a plusieurs modèles. Il faut trouver la meilleure complémentarité entre ces différents modèles avec un seul objectif stratégique, c'est que ça rapporte aux Calédoniens et à la Nouvelle-Calédonie le plus possible.
Mais dans un premier temps, j'ai envie de vous dire, il faut aussi que les usines qui existent tiennent ou puissent repartir. On en est où pour la reprise de l'usine du Sud et de KNS ? Est-ce que il y a beaucoup de pistes qui sont évoquées, il y a des noms de repreneurs qui circulent, ça va se concrétiser et à quelle échéance ?
Écoutez, je ne dévoilerai pas les secrets.
Demanderai pas ça.
Mais
donnez-nous des pistes quand
mais
même.
Mais je sais que les choses avancent, Elisabeth. Et l'objectif du 18e gouvernement, ça a été de créer les conditions pour que les investisseurs nous regardent d'un autre œil. Je vous parlais tout à l'heure des exportations sur les réserves métallurgiques. C'est un signe énorme. C'est un signe énorme que l'on envoie vers l'extérieur. Mais il y a d'autres chantiers sur lesquels il faut qu'on travaille. Et donc, nos équipes ont commencé à travailler et à lancer des groupes de travail sur les questions de fiscalité minière. Je rappelle qu'il y a 2-3 ans de ça, j'étais encore membre du Congrès. Nous avons voté la redevance d'extraction et nous avons voté la taxe à l'exportation. Des redevances et taxes qui ont été votées il y a 2-3 ans, alors qu'on parle de 50-60 ans d'exploitation minière ici. On peut toujours avoir le regret de dire pourquoi les vieux ne l'ont pas fait à l'époque. Mais on ne va pas vivre de regret. On va dire, nous on l'a fait il y a 2-3 ans de cela. Au 18e gouvernement, on a réajusté la redevance d'extraction pour que ça puisse rapporter aux communes et une partie au gouvernement. Sur la taxe à l'exportation, avec mes équipes, on a créé les conditions pour que la Nouvelle-Calédonie, dans les mois, années à venir, puisse ouvrir le fonds pour les générations futures, qui sera normalement alimenté par la taxe à l'exportation. Je vais dire, ce sont les responsabilités du gouvernement de créer des conditions pour que non seulement les investisseurs souhaitent venir ici en Nouvelle-Calédonie parce que les choses sont faites pour les attirer, mais également le gouvernement doit répondre aux questions qui sont posées par les gens qui vivent au pied des mines, que ce soit les mairies, les tribus et les communautés qui sont au pied des mines. Donc, on l'a fait. Il y a encore beaucoup de travail à faire autour du nickel. Moi, je vous disais, ça avance. J'espère beaucoup que ça reprend dans le sud et que ça puisse reprendre dans le nord, pour qu'on puisse à un moment donné aligner les étoiles et faire à ce que le nickel joue le rôle auquel les Calédoniens attendent sur le territoire.
Encore une question sur les débouchés pour le nickel calédonien. On parle beaucoup ces derniers temps de l'Union européenne. Vous avez travaillé également sur ce dossier. Et ça, là aussi, est-ce que ça avance ? Est-ce qu'il va y avoir une possibilité de concrétiser les choses ?
Vous savez, Elisabeth, la question du nickel, elle est souvent liée à la question énergétique. Et quand je parle de la question énergétique, c'est de la fourniture d'électricité pour faire marcher les fours, que ce soit à Doniambo ou à Koniambo Nickel. Et la problématique qui tournait autour de l'énergie, ça a été le coût de l'énergie. Emmanuel Macron a dit en juillet 2023, l'État nous accompagnera. Ce qu'on a fait au 18e gouvernement, c'est qu'on a essayé d'enfoncer les portes avec l'Union européenne pour pouvoir nous accompagner sur cette question énergétique. Et je n'ai pas à communiquer beaucoup de mes missions avec l'Union européenne, mais j'ai de très bon espoir que cette année et l'année prochaine, qu'on puisse travailler sur des pseudo-accords entre la Nouvelle-Calédonie et l'Union européenne pour pouvoir assurer une énergie pas chère et décarbonée pour la Nouvelle-Calédonie qui servira l'industrie du nickel au final. Et l'Union européenne, dans le cadre de, on va dire, de sa politique sur les matériaux critiques, est également engagée sur ce dossier avec nous.
On va suivre ça avec intérêt dans les prochains mois. Autre temps fort de votre gouvernance, et vous le savez, le secteur aérien, avec notamment le transfert d'Aircal à Tontuta, ça fait toujours débat. 5 mois après le déménagement de la compagnie domestique, il y a toujours des îles où les avions d'Aircal ne peuvent pas atterrir. Est-ce que c'était indispensable de faire ce changement ? Et est-ce que vous regrettez un peu, étant donné les tensions que ça a provoquées ?
C'est vrai, Elisabeth, que ce n'était pas une décision populaire, mais je vais vous avouer que c'était une décision qui était indispensable. Les précédents gouvernements l'avaient déjà pointé, les conseils d'administration précédents de la compagnie l'avaient déjà également pointé et acté. Vous savez, je suis arrivé là en responsabilité. À un moment donné, quand on regarde les enjeux qui sont devant, on a décidé de le faire. Mais on ne l'a pas fait tout seul dans notre coin. Moi, je me suis déplacé dans les îles Loyauté. J'ai été dans les trois îles, j'ai été à l'île des Pins. J'ai entendu, oui, la population. C'était compliqué. C'était difficile pour eux de vivre ce changement, ce que je comprends parfaitement. Mais la question qui se posait à moi, c'était, est-ce que j'opère ce changement pour donner une chance à un moment donné à la compagnie de continuer à travailler, ou est-ce que je ne fais rien, je mets le dossier sous la pile et j'attends juste que la compagnie soit liquidée à un moment donné parce que financièrement et sur son plan d'activité normale, elle ne pourrait pas tenir et la Nouvelle-Calédonie ne pourrait plus lui donner les 1 à 1,5 milliard qu'elle lui donnait chaque année. Donc la question, elle est simple pour moi. Il fallait décider pour essayer de sauver la continuité aérienne entre la Grande Terre et les îles Loyauté. Et si c'était à refaire, je le referais.
On va sauver Aircal, parce qu'elle a quand même beaucoup souffert de cette immobilisation pendant des semaines et des mois.
Vous savez, la compagnie, elle est dans cette situation depuis bien plus longtemps que ça. Voilà. Dans le plan de sauvetage
de la compagnie... Ça n'a rien
arrangé. Voilà, tout à fait. Ça, dans le plan de sauvetage global de la compagnie, il y a eu la diminution des effectifs. Hein. Je veux dire, les agents de Air Calédonie ont fait énormément d'efforts pour sauver la compagnie. Il y a eu la vente d'un avion, il y a eu l'ouverture vers le Vanuatu où il y a eu une activité pendant un moment donné qui a généré pas loin de 800 millions de chiffre d'affaires, et il y avait ce déménagement qui, à un moment donné, pouvait permettre à la compagnie de mutualiser des services avec Air Calin sur la plateforme de Tantuta et lui faciliter son opération Vanuatu-Nouvelle-Calédonie. Donc tout ça, ça faisait partie d'un plan de redressement avec les aérodromes de la Nouvelle-Calédonie ouverts. Oui, il y a des paramètres qui ont changé entre-temps. Est-ce qu'on sauvera ou pas ? La Nouvelle-Calédonie ne dira pas si on sauvera ou pas. Le tribunal attend à ce qu'il y ait un plan de redressement qui soit proposé par Aircal d'ici le mois d'octobre. C'est le tribunal qui dira si le plan peut tenir ou pas vis-à-vis de tout ce qui a déjà été réalisé.
Alors, autre priorité que vous mettez en avant dans votre bilan, c'est la jeunesse. Alors que c'est la priorité pour tout le monde. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est à la fois un espoir, évidemment, mais aussi une inquiétude quand on voit une jeunesse que l'on dit en déshérence, et on a vu que parfois elle pouvait même être extrêmement violente. Quelles sont les perspectives que vous avez pu ouvrir pour cette jeunesse, et est-ce que vous avez confiance en la jeunesse calédonienne, et est-ce que vous avez trouvé un moyen de lui redonner confiance ?
Écoutez, Elisabeth, déjà... Je voudrais dire que c'est vrai que la jeunesse, il ne faut pas que ça soit à chaque fois un discours de campagne quand il y a les élections et tout, et que ça se traduise par des actions concrètes. Et je profite aussi de l'antenne pour remercier d'ailleurs non seulement le haut-commissaire, mais l'État qui nous a accompagnés, puisqu'on a signé dernièrement une convention avec l'État sur le parcours d'insertion professionnelle pour les jeunes en difficulté. Donc, pas loin de 300 millions hein, qui seront dépensés chaque année pour pouvoir accompagner les jeunes et essayer de les réinsérer. Donc ça, ce sont des actes qui sont mis en place et portés par le gouvernement. Mais sur la question de la jeunesse, il y a aussi une forte compétence qui est celle des provinces. Donc c'est un travail qui doit être fait en collaboration non seulement par le gouvernement, mais avec l'ensemble des provinces compétentes dans la matière pour essayer de créer des dispositifs et pas faire des dispositifs pour des dispositifs, mais pour faire des dispositifs pour répondre aux problématiques qui sont posées. Et donc moi, je crois beaucoup en ce travail de collaboration entre les interinstitutionnels pour pouvoir accompagner cette jeunesse. Mais je finirai en disant... On met souvent le doigt sur la jeunesse. Mais vous savez, pendant la campagne provinciale, j'ai dit à mes équipes en province nord, il faut se poser les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est un problème de jeunesse ou est-ce que c'est un problème d'adulte ? Voilà. Posons-nous la question. Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants ? Et je le pose à l'antenne, aux Calédoniens. Qu'est-ce que chacun veut pour son propre enfant ? C'est à nous, adultes, d'apporter des réponses à ces questions. Moi, je fais partie de ceux qui... Je dis souvent, hein, il ne faut pas attendre après le maire ou le président de la province ou le président du gouvernement. Non, non, non. Il faut d'abord, nous, décider et de savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec nos enfants. Et je finirai en disant, on a parlé de nickel avant ça. Si les industries reprennent, que ce soit dans le nord ou dans le sud, ça apportera aussi des réponses. Parce qu'il faut de l'emploi pour occuper nos jeunes. Il faut du travail. Il faut qu'on contribue à créer des conditions pour que l'activité économique reprenne, pour répondre en filigrane à cette question qui nous est posée par notre jeunesse.
Alors plus ardu, peut-être vous mettez également en avant, pendant le temps où vous étiez à la présidence de ce gouvernement, la modernisation de l'action publique. Vous avez eu le temps de faire des réformes de fond dans ce domaine-là, ou de simplifier la vie administrative, ou de simplifier le fonctionnement du gouvernement, l'allégeant peut-être ?
Écoutez... Quand je suis arrivé au gouvernement en janvier 2025, il y avait déjà un dossier qui avait été porté par les précédents gouvernements. Donc je me suis inscrit dans cette continuité-là concernant la modernisation de l'administration du gouvernement déclenchant le plan d'évolution de l'administration. On appelle vulgairement le PEA. Ça a fait l'objet de réflexions au sein même du gouvernement et ça a été validé par le 18e gouvernement, présenté en séance plénière aux élus du Congrès, avec des retours qui nous ont été faits par les élus du Congrès, qui ont été pris en compte. Et donc, aujourd'hui, nous avons des objectifs majeurs qui ont été définis par le gouvernement, le 18e gouvernement. Les équipes, aujourd'hui, sur le terrain, travaillent pour s'organiser, pour atteindre ces objectifs. L'objectif principal du PEA, c'est de moderniser les choses, de les fluidifier et de rendre lisibles les choses. Vous savez, quand on parle du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour 265 000 Calédoniens, nous avons 26 directions au sein de notre gouvernement. Nous avons 26 établissements publics. Donc voilà, je parle juste de ces deux chiffres-là pour se dire à un moment donné, il faut qu'on arrive à simplifier les choses, il faut que le Calédonien, quand il voit le gouvernement, quand il voit les établissements publics, il sait à quoi sert cet établissement, à quoi sert cette direction. Donc c'est l'objet du PEA qui a été lancé pour essayer de faire à ce qu'on soit non seulement plus efficace, mais qu'on puisse répondre aussi aux défis qui nous sont posés. Par le passé, nous avons eu le Covid, nous avons eu la crise nickel, nous avons eu les émeutes de 2024. Il faut pouvoir, à un moment donné, être en position de répondre à ces défis. Mais ça, ce sont des événements négatifs que je expose ici, mais nous avons également les questions qui nous arrivent. Les avancées sur la dématérialisation, les avancées sur tout ce qui est Internet, etc. et tout, l'intelligence artificielle. Ouais, tout ça, ce sont des défis qui sont devant nous, ce sont des outils qui s'imposent à nous en tant qu'administration et que demain, après-demain, il faut qu'on puisse s'organiser et qu'on puisse travailler avec ces nouvelles choses. Ce sont des choses qu'on ne voit pas, qui ne portent pas sur le plan politique, mais ce sont des choses que l'on doit faire. Et je finirai en remerciant l'administration, parce que quand je suis arrivé, j'ai auditionné chaque directeur un samedi matin de 6h du matin jusqu'à 18h du soir.
Les 26.
Les 26 directeurs, pour leur dire que j'attachais une importance particulière à ce que l'administration essaye de travailler sur cette modernisation et que cette modernisation ne viendrait que de l'intérieur de l'administration. Ça ne peut pas venir de l'extérieur. Et je peux le dire, à la fin de la mandature, j'ai senti quelque chose qui se passe. Ça a créé des frustrations, ça a créé des questions, ça a provoqué des questions, et c'est tout à fait normal, mais je pense que ça se passe. J'ose espérer que le prochain président de gouvernement continuera à appuyer pour que le PEA puisse se déployer, parce que la Nouvelle-Calédonie en a besoin.
Le temps passe, mais il s'est passé beaucoup de choses pendant ces 18 mois, notamment l'aide de l'État à travers le pacte de refondation économique et sociale. Il y avait un volet sur la jeunesse, vous y faisiez allusion. Quand même, ce pacte, ça vous a aidé dans la gestion de la Nouvelle-Calédonie. C'était un peu indispensable, non ?
Écoutez, Elisabeth, si on n'avait pas eu l'aide de l'État en 2025, on n'aurait pas pu faire de budget. C'est 95 milliards qui nous ont été accordés en 2025 pour pouvoir boucler notre budget. C'est un peu moins sur toute l'enveloppe des 120 milliards qui a été accordé, qui seront accordés en 2026 et en 2027. Oui, l'aide de l'État a été importante pour que nous puissions boucler les budgets et surtout que nous puissions accomplir les missions de service public qui nous étaient destinées, non seulement à nous, au gouvernement, mais également aux provinces et aussi aux communes.
Quels sont les chantiers prioritaires que vous laissez maintenant pour le prochain gouvernement? À quoi, selon vous, va-t-il devoir d'abord s'attaquer?
C'est une question difficile que vous posez, Elisabeth, parce que dans des situations d'urgence, comme dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, tout est urgent, mais je pense que le prochain président devra s'attacher d'abord à ces questions financières pour voir comment est-ce qu'on termine l'année 2026 et comment est-ce qu'on construit le budget de 2027. C'est un énorme défi qui est devant la prochaine équipe. Ensuite, nous avons l'ensemble des questions que je viens de citer également. Hein. Suivre les questions nickel, de suivre les questions sur l'aérien, de suivre les questions... On a fermé la maison de la Nouvelle-Calédonie, mais il faut qu'on réouvre une annexe du gouvernement Nouvelle-Calédonie pour pouvoir avoir ces relations non seulement avec les ministères nationaux, mais également avec l'Europe. Donc, il y a plusieurs dossiers sur lesquels...
Les comptes sociaux aussi.
Il y a les comptes sociaux, il y a les retraites. Vous avez également, même si c'est de la compétence des provinces, tout ce qui est logements sociaux, les aides. Donc, j'ai du mal à répondre à votre question. Quels sont les dossiers prioritaires? Parce que tout est prioritaire dans la situation dans laquelle on est.
Pendant ces 18 mois, vous avez également participé aux discussions sur l'avenir institutionnel. On s'en souvient d'Eva, Bougival, Élisée Oudinot. On en est où maintenant? Ça devait reprendre, mais de toute façon, ça va pas reprendre tout de suite, à votre avis. Vous avez une date, vous avez un moment. Et est-ce que vous, dans les fonctions qui seront les vôtres après, et on ne sait pas encore lesquelles, est-ce qu'éventuellement vous pourriez avoir envie de continuer à y participer?
Déjà, ce que je voudrais dire, Elisabeth, c'est que les élus calédoniens ont fait le travail qu'ils devaient faire dans la mandature passée. Voilà. Les élus calédoniens se sont mobilisés pour d'abord faire un travail à Bougival, qui a été signé par tous, je le précise. Et ensuite, la majorité des élus, sans les représentants de l'UCFLNKS, ont continué à faire le travail à Oudinot et Élisée. Le résultat à la fin... Je l'ai dit pendant les campagnes, on va arrêter de parler de Bougival et Oudinot-Élysée parce que l'Assemblée nationale a shooté le projet. Voilà où c'est qu'on en est. La situation aujourd'hui, j'ai cru comprendre que le Premier ministre voulait éventuellement reprendre des discussions d'ici la fin de l'année. Moi, je pense sincèrement qu'il y a d'abord des échéances importantes sur le plan national qui vont arriver, celle de l'élection du président de la République en avril-mai 2027. Et ensuite, le renouvellement de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si on pourra boucler quelque chose avant la fin de la mandature du président Macron. Sincèrement, je ne crois pas, parce qu'on l'a essayé, donc on n'a pas réussi. Et, par contre, je pense que c'est du temps en offre sur lequel peut-être nous, les partenaires calédoniens, nous pouvons déjà commencer à réfléchir entre nous et tracer 2-3 hypothèses possible pour pouvoir avancer avec le nouveau président de la République ou la nouvelle présidente de la République et la nouvelle Assemblée nationale quand elle sera mise en place.
Voilà, on fait une pause pendant quelques mois donc. Et alors là, vous n'avez pas répondu vous-même, Alcide Ponga, qu'est-ce que vous devenez? Vous n'avez pas été réélu comme élu provincial. Est-ce que vous allez retourner au gouvernement? Est-ce que vous allez vous consacrer au Rassemblement dont vous êtes également le président? Je sais que vous n'allez pas tout me dire, mais quand même, comment est-ce que vous voyez votre avenir immédiat?
Écoutez, mon avenir immédiat, Elisabeth, c'est que je suis encore le président du gouvernement jusqu'à la fin août, jusqu'au 31, je crois.
La fin juillet.
Voilà,
31 juillet.
Juillet, plutôt.
Voilà, élection voilà. Du gouvernement vers le 5 août, je crois.
Voilà, c'est ça. Et donc, je vais assumer pleinement mes fonctions de président du gouvernement parce qu'il y a encore du travail, même en gestion des affaires courantes. Et on verra ce que nos équipes politiques discuteront, mettront en place et tout pour la nomination du prochain gouvernement. Et vous aurez certainement une réponse le 31 juillet.
Un peu de suspense donc. Pour conclure, et en quelques mots, même si la question est large, on vient de voir une phase politique intense, notamment élection provinciale, installation des provinces, du Congrès. Bientôt, il va y avoir l'élection du gouvernement. Il y a eu la signature d'un pacte de gouvernance entre les loyalistes, le Rassemblement et l'éveil océanien. Quel est votre commentaire, votre réaction sur tout ça? Vous avez le sentiment que les choses sont plutôt bien parties, qu'on a trouvé des solutions, qu'on va en trouver, ou que c'est un accord qui va avoir une durée éphémère? Comment est-ce que vous voyez le résultat de ces élections et ses conséquences institutionnelles?
Écoutez, j'ai pas été neutre dans cette affaire. au-delà de l'appellation que vous faites le pacte de gouvernance, hein, moi je l'appellerais plutôt un pacte de stabilité. Voilà, je parlerai plutôt de pacte de stabilité. Nous avons vécu 2019 avec nos amis de l'éveil océanien qui ont un peu fait le tour de tout le monde. Voilà, je le dis en toute transparence, hein. En allant avec Thierry Santa pour le premier gouvernement, en allant avec le FLNKS pour le premier congrès, en rechangeant en cours de route et tout. Et donc j'ai échangé avec le président de l'éveil océanien à la sortie des élections pour sensibiliser sur le fait que la Nouvelle-Calédonie a besoin de stabilité. Les questions qui seront devant les élus calédoniens demain et après-demain, on ne peut pas les traiter si la gouvernance de nos collectivités sont instables. Si on change de président de congrès toutes les semaines, si on change de président de gouvernement toutes les 15 jours, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et donc ce pacte de gouvernance, comme vous l'avez appelé, moi, je préfère le qualifier de pacte de stabilité et j'espère qu'il durera jusqu'à ce qu'on puisse trouver un accord et partir sur de nouvelles élections. C'est dans l'intérêt des Calédoniens et de la Nouvelle-Calédonie. Si on ne stabilise pas les choses, ben vous savez pas quoi, on va planter la Calédonie.
Merci Alcide Ponga, monsieur le président du gouvernement, et on sent que vous n'allez pas forcément rester très loin des institutions, qu'en tout cas ça vous passionne encore. Merci d'accepter notre invitation.
Merci beaucoup Elisabeth, et merci aux auditrices et aux auditeurs.